Chapitre 2. À peine fûmes-nous dans l'antichambre que cette femme qu'on avait envoyée pour me tirer de mon premier couvent sous le nom de ma mère et qui était venue ce matin même reprendre celui où elle m'avait mise la veille, que cette femme, dis-je, se présenta à nous et nous dit qu'elle avait ordre du ministre de nous mener tout à l'heure, si nous voulions, à ce dernier couvent pour me faire rendre mes hardes, qu'on hésiterait peut-être de me donner si nous y allions sans elle, à moins que Madame de Mirande aimât mieux remettre à y aller dans l'après-midi. « Non, non, dit ma mère, finissons cela, ne différons point. Venez, mademoiselle, aussi bien avons-nous besoin de vous pour aller là, car j'ai oublié de demander où c'est. Venez, j'aurai soin qu'on nous ramène ensuite. » Cette femme nous suivit donc et monta en carrosse avec nous. Vous jugez bien qu'il ne fut plus question de cette familiarité qu'elle avait eue avec moi lorsqu'elle m'était venue prendre, et je la vis un peu honteuse de la différence qu'il y avait pour elle de ce voyage-ci à ceux que nous avions déjà faits ensemble. Chacun a son petit orgueil. Nous n'étions plus camarades et cela lui donnait quelque confusion. Je n'en abusais point, j'avais trop de joie, je sortais d'un trop grand triomphe pour m'amuser à être maligne ou glorieuse, et n'ai jamais été d'ailleurs ni l'une ni l'autre. L'entretien fut fort réservé pendant le chemin, à cause de cette femme qui nous accompagnait et qui, à l'occasion de je ne sais quoi qui fut dit, nous apprit que c'était de Madame de Phare que venait toute la rumeur, et qu'en même temps elle avait refusé de se joindre aux autres parents dans les mouvements qu'ils s'étaient donnés, de sorte qu'elle n'avait pas précisément parlé pour me nuire, mais seulement pour avoir le plaisir d'être indiscrète et de révéler une chose qui surprendrait. Elle nous conta aussi que M. Villot était au désespoir de ce qui ne serait point à moi. Je l'ai laissé qui pleurait comme un enfant, nous dit-elle, sur quoi je jetai les yeux sur Valville, pour qu'il me parût que le récit de l'affliction de M. Villot n'était pas amusant. Aussi n'y répondîmes-nous rien, ma mère et moi, et laissâmes-nous tomber ce petit article, d'autant plus que nous étions arrivés à la porte du couvent, où je descendis avec cette femme. « Il est inutile que je paraisse, me dit ma mère, et je crois même qu'il suffirait que mademoiselle allât demander vos hardes, sans parler de nous et sans dire que nous sommes ici. Non, permettez-moi de me montrer aussi, lui dis-je. Les bontés que l'abbesse a eues pour moi exigent que je la remercie. Je ne saurais m'en dispenser sans ingratitude. Ah, tu as raison, ma fille, et je ne savais pas cela, me répartit-elle. Va, mais hâte-toi, et dites-lui que je t'attends, que je suis fatigué et qu'il m'est impossible de descendre. Fais le plus vite que tu pourras. Il vaut mieux que tu la reviennes voir. » Un vrai jour, donc, je parus, on me rendit mon coffre ou ma cassette, lequel des deux il vous plaira. Toutes les religieuses que j'avais vues vinrent se réjouir avec moi du succès de mon aventure. L'abbesse me donna des témoignages d'affection les plus sincères. Elle aurait souhaité que j'eusse passé le reste de la soirée avec elle, mais il n'y avait pas moyen. « Ma mère est à la porte de votre maison, dans son carrosse. Elle vous aurait vu, lui dis-je, mais elle est indisposée, elle vous fait ses excuses, il faut que je vous quitte. »« Quoi ? » s'écria-t-elle. « Cette mère, si tendre, cette dame que j'estime tant, est ici. » Mon Dieu, que j'aurai de plaisir à la voir et à lui dire du bien de vous. Allez, mademoiselle, retournez-vous-en, mais tâchez de la déterminer à venir un instant. Oh, si je pouvais sortir, je courrais à elle, et à supposons qu'il soit trop tard, dites-lui que je la conjure de revenir encore une fois ici avec vous. Partez, ma chère enfant, partez. » Et aussitôt, elle me congédia. Un domestique de la maison portait mon petit ballot. Oh, tout ceci se passa en moins d'un demi-quart d'heure de temps. J'oublie encore que l'abbesse chargea la tourière d'aller faire ses compliments à Madame de Mirande, qui, de son côté, la fit assurer que nous la reviendrions voir au premier jour, et puis nous partîmes pour aller, devineriez-vous où? Au logis, dit ma mère, car à ton autre couvent, on a dîné, et nous t'y remettrons sur le soir. Oh, non pas que j'ai envie de t'y laisser longtemps, mais il est bon que tu y fasses encore quelques séjours, ne fût-ce qu'à cause de ce qui t'est arrivé et de l'inquiétude que j'en ai montrée moi-même. Nous avancions pendant qu'elle parlait, et nous voici dans la cour de ma mère, d'où elle congédia cette femme de Madame de, qui nous avait suivis, et nous montâmes chez elle. Une certaine gouvernante, qui était dans la maison de Madame de Miran quand on m'y porta, après ma chute au sortir de l'église, et que, si vous vous en souvenez, Valville appela pour me déchausser, n'y était plus. Et de tous les domestiques, il n'y avait plus qu'un laquais de Valville qui me connut. C'était celui qui avait suivi mon fiacre jusque chez Madame du Tour, et qui d'ailleurs m'avait déjà revu plusieurs fois, puisqu'il m'était venu rendre 2 ou 3 billets de Valville à mon couvent. Or, ce laquais était malade, ainsi il n'y avait là personne qui sût qui j'étais. Et ce qui fait que je vous dis cela, c'est que pendant que nous montions chez ma mère, je rêvais, toute joyeuse que j'étais, que j'allais trouver dans cette maison, et cette gouvernante que je vous ai rappelée, et quelques valets qui ne manqueraient pas de me reconnaître. « Ah, c'est cette petite fille qu'on a apportée ici, et qui avait mal aux pieds, vont-ils dire, pensais-je en moi-même. Ah, c'est cette petite lingère que nous croyons une demoiselle, et qui se fit reconduire chez Madame du Tour. » Et cela me déplaisait. J'avais peur aussi que Valville n'en fût un peu honteux. Peut-être que, m'aimant autant qu'il faisait, se sentirait-il pas soucié, mais heureusement nous ne fûmes exposés ni l'un ni l'autre aux désagréments que j'imaginais, et je goûtais tout à mon aise le plaisir de me trouver chez ma mère et d'y être comme si j'avais été chez moi. « Ah ça, ma fille, me dit-elle, viens que je t'embrasse, à présent que nous sommes sans critique. Tout ceci a tourné, on ne peut pas mieux. On se doute de nos desseins, on les prévoit, on a même paru les désapprouver. Le ministre t'a rendu ta parole en te remettant entre mes mains. Et grâce au ciel, on ne sera plus surpris de rien. Tu m'as dit tantôt les choses du monde les plus tendres, ma chère enfant. Mais franchement, je le mérite bien pour tout le chagrin que tu m'as causé. Tu en as eu beaucoup aussi, n'est-il pas vrai? As-tu songé à celui que j'aurais? Que pensais-tu de ta mère? » Elle me tenait ce discours, assise dans un fauteuil. J'étais vis-à-vis d'elle, et me laissant aller à une saillie de reconnaissance, je me jetais tout d'un coup à ses genoux. Et puis, la regardant d'après lui avoir baisé la main, « Ma mère, lui dis-je, voilà monsieur de Vanneville. Il m'est bien cher, et ce n'est plus un secret. Je l'ai publié devant tout le monde, mais il ne m'empêchera pas de vous dire que j'ai 1000 fois plus encore songé à vous qu'à lui. » C'était ma mère qui m'occupait, c'était sa tendresse et son bon cœur. Que fera-t-elle, que ne fera-t-elle pas, me disais-je, et toujours ma mère dans l'esprit. Toutes mes pensées vous regardaient, et je ne savais pas si vous réussiriez à me tirer d'embarras. Mais ce que je souhaitais le plus, c'était que ma mère fût bien fâchée de ne plus voir sa fille. Je désirais 100 fois plus sa tendresse que ma délivrance, et j'aurais tout enduré hormis d'être abandonné d'elle. J'étais si pleine de ce que je vous dis là, j'en étais tellement agitée que j'en sentais quelques petites inquiétudes dont je m'accuse, quoiqu'elle n'ait presque pas duré. J'ai pourtant songé aussi à monsieur de Valville, car s'il m'oubliait, ce serait une grande affliction pour moi, plus grande que je puis le dire. Mais le principal est que vous m'aimiez, c'est le cœur de ma mère qui m'est le plus nécessaire. Il va avant tout dans le mien, car il m'a fait tant de bien, je lui ai tant d'obligations, il m'est si doux de lui être cher. N'ai-je pas raison, monsieur ? Madame de Mirand m'écoutait en souriant. Levez-vous, petite fille, me dit-elle ensuite. Vous me faites oublier que j'ai à vous quereller de votre imprudence d'hier matin. Je voudrais bien savoir pourquoi vous vous laissez emmener par une femme qui vous est totalement inconnue, qui vient vous chercher 100 billets de ma part et dans un équipage qui n'est pas à moi non plus. Mais où était votre esprit de n'avoir pas fait attention à tout cela, surtout après la visite suspecte que vous aviez reçue de ce grand squelette dont vous m'aviez si bien dépeint la figure? Des menaces ne vous annonçaient-elles pas quelque dessein? Ne devait-elle pas vous laisser quelque défiance? Vous êtes une étourdie. Et pendant le séjour que vous ferez encore à votre couvent, je vous défends d'en sortir jamais qu'avec cette femme que vous venez de voir. Elle parlait d'une femme de chambre qui avait paru il y a avec un moment, ou que sur une lettre de moi, quand je n'irai pas vous chercher moi-même, entendez-vous? Là-dessus, on servit, nous dînâmes. Valville mangea fort peu, et moi aussi. Ma mère y prit garde, et elle en rit. Apparemment, que la joie ôte l'appétit, nous dit-elle en badinant. Oui, ma mère, reprit Valville sur le même ton, on ne saurait faire tant de choses à la fois. Le repas fini, madame de Mirand passa dans sa chambre, et nous l'y suivîmes. De là, elle entra dans un petit cabinet d'où elle m'appela. J'y vins. « Donne-moi ta main, me dit-elle. Voyons si cette bague-ci te conviendra. » C'était un brillant de prix, et pendant qu'elle me l'essayait, « Je vois, lui répondis-je, un portrait. » C'était le sien, que j'aimerais mille fois mieux que la bague, toute belle qu'elle est, et que toutes les pierreries du monde. Trop con, ma mère, cédez-moi le portrait, je vous rendrai la bague. Patience, me dit-elle, je le ferai placer ici, dans votre chambre, quand vous y serez, et vous y serez bientôt. Vous mettez-vous votre argent, Marianne? Continua-t-elle. Vous n'avez rien pour cela, je pense. Et aussitôt, elle ouvrit un tiroir. Tenez, voilà une bourse qui est fort bien travaillée. Servez-vous-en. Je vous remercie, ma mère, lui répartis-je, mais où mettrai-je tout l'amour, tout le respect, toute la reconnaissance que j'ai pour ma mère? Il me semble que j'en ai plus qu'il n'en peut tenir dans mon cœur. Elle sourit à ce discours. Savez-vous ce qu'il faut faire, ma mère? Nous dit Malville, qui était restée à l'entrée du cabinet, et que la joie d'entendre ce que nous disions toutes deux avec cette familiarité douce et badine tenait comme en extase. Mettons votre fille le plus vite que nous pourrons dans cette chambre où vous avez dessein de placer le portrait. Elle en sera moins embarrassée de tout l'amour qu'elle a pour vous, et plus à portée de venir en parler pour le soulager. C'est de quoi nous allons nous entretenir tout à l'heure, répondit madame de Mirand. Sortons, je veux lui montrer l'appartement que j'occupais du vivant de votre père. Et sur le champ, nous passâmes dans une grande antichambre que j'avais déjà vue, et dans laquelle il y avait une porte vis-à-vis de celle par où nous entrions. Cette porte nous mena à cet appartement qu'il voulait me faire voir. Il était plus vaste et plus orné que celui de madame de Mirand, et donnait, comme le sien, sur un très beau jardin. « Eh bien, ma fille, comment vous trouvez-vous ici? Ne vous y ennuierez-vous point? Y regretterez-vous votre couvent? » me dit-elle en riant. Je me mis à pleurer là-dessus de pur ravissement, et me jetant entre ses bras. « Oh, ma mère !» lui repartis-je d'un ton pénétré. « Quel délice pour moi! Songez-vous que cet appartement-ci me conduira dans le vôtre ?» À peine achevai-je ces mots, qu'un coup de sifflet nous avertit qu'il venait une visite. Ah, mon Dieu! S'écria madame de Mirand, que je suis fâchée. Je l'ai sonné pour donner l'ordre de dire que je n'y étais pas. Ben, retournons chez moi. Nous nous y rendîmes. Un laquais entra qui nous annonça deux dames que je ne connaissais pas, qui n'avaient point entendu parler de moi non plus, qui me regardèrent beaucoup, me prirent peut-être pour une parente de la maison, et venaient rendre elles-mêmes une de ces visites indifférentes qui, entre femmes, n'aboutissent qu'à se voir une demi-heure, qu'à se dire quelques bagatelles ennuyantes, et qu'à se laisser là, sans se soucier les unes des autres. Je remarquerai, pour vous amuser seulement, et je n'écris que pour cela, que de ces deux dames, il y en avait une qui parla fort peu, ne prit presque point de part à ce que l'on disait, ne fit que remuer la tête pour en varier les attitudes et les rendre avantageuses, enfin, qui ne songea qu'à elle et à ses grâces. Et il est vrai qu'elle en aurait eu quelques-unes, si elle ne s'était moins occupée de la vanité d'en avoir. Mais cette vanité gâtait tout, et ne lui en laissait pas une de naturelle. Il y a beaucoup de femmes comme elle, qui seraient fort aimables, si elles pouvaient oublier un peu qu'elles le sont. Oh, celle-ci, j'en suis sûr, n'allait et venait par le monde que pour se montrer, que pour dire « Voyez-moi, elle ne vivait que pour cela. » Je crois qu'elle me trouva jolie, car elle me regarda un peu, et toujours de côté. On démêlait qu'elle faisait semblant de me compter pour rien, de ne pas s'apercevoir que j'étais là, et le tout pour persuader qu'elle ne trouvait rien en moi que de fort commun. Une chose la trahit pourtant, c'est qu'elle avait toujours les yeux sur Valville, pour observer laquelle des deux il regarderait le plus, d'elle ou de moi. Et en un sens, c'était bien là me regarder moi-même et craindre que je n'eusse la préférence. L'autre dame, plus âgée, était une femme fort sérieuse et cependant fort frivole, c'est-à-dire qui parlait gravement et avec dignité d'un équipage qu'elle faisait faire, d'un repas qu'elle avait donné, d'une visite qu'elle avait rendue, d'une histoire que lui avait contée la marquise une telle, et puis c'était madame la duchesse de qui se portait mieux, mais qui avait pris l'air de trop bonne heure, qu'elle en avait querellé, oh que cela était effroyable, et puis c'était une repartie haute et convenable qu'elle avait faite la veille à cette madame une telle, qui s'oubliait de temps en temps à cause qu'elle était riche, qui ne distinguait pas d'avec elle les femmes d'une certaine façon, et mille autres choses d'une aussi plate et d'une aussi vaine espèce qui firent le sujet de cet entretien, pendant laquelle d'autres visites aussi fatigantes arrivèrent encore. De sorte qu'il était tard quand nous en fûmes débarrassés et qu'il n'y avait point de temps à perdre pour me ramener à mon couvent. « Nous nous reverrons demain ou le jour d'après, » dit ma mère. « Je t'enverrai chercher. Hâtons-nous de partir. J'ai besoin de repos et je me coucherai dès que je serai revenu. Pour vous, mon fils, vous n'avez qu'à rester ici. Nous n'avons pas besoin de vous. » Valville se plaignit, mais il obéit et nous remontâmes en carrosse. Nous voici arrivés au couvent où nous vîmes un instant l'abbesse dans son parloir. Ma mère l'instruisit de la fin de mon aventure, et puis je rentrai. Deux jours après, madame de Mirand vint me reprendre à l'heure de midi. Vous savez qu'elle me l'avait promis. Je dînais chez elle avec Valville. Il y fut question de notre mariage. En ce temps-là, même, on traitait pour Valville d'une charge considérable. Il devait en être incessamment pourvu. Il y avait tout au plus que 3 semaines à attendre. Il fut conclu que nous nous marierions dès que cette affaire serait terminée. Voilà qui était bien positif. Valville ne se possédait pas de joie. Je ne savais plus que dire dans la mienne. Elle m'ôtait la parole et je ne faisais que regarder ma mère. « Ce n'est pas le tout, me dit-elle. » Je vais ce soir pour 8 ou 10 jours à ma terre, où je veux me reposer de toutes les fatigues que j'ai eues depuis la mort de mon frère, et je suis d'avis de te mener avec moi pendant que mon fils va passer quelque temps à Versailles, où il est nécessaire qu'il se rende. Tu n'as rien à porter de ton couvent pour cette petite absence, mais je te donnerai tout ce qu'il te faut. Oh mon Dieu, que de plaisir! Quoi, 10 ou 12 jours avec vous, sans vous quitter? Lui répondis-je. Oh, ne changez donc point d'avis, ma mère. Aussitôt, elle passa dans son cabinet, écrivit à l'abbesse qu'elle m'emmenait à la campagne, fit porter le billet sur le champ, et 2 heures après, nous partîmes. Notre voyage n'était pas long. Cette terre n'était éloignée que de 3 petites lieues, et Valville se déroba 2 ou 3 fois de Versailles pour nous y venir voir. Il ne fut pas pourvu de cette charge dont j'ai parlé aussi vite qu'on l'avait cru. Il survint des difficultés qui traînèrent l'affaire en longueur. Chaque jour, cependant, on en attendait la conclusion. Nous revînmes de campagne, ma mère et moi, et je retournai encore à mon couvent, où elle ne comptait pas que je dusse rester plus d'une semaine. Eh bien, j'y restai pourtant plus d'un mois, pendant lequel je vins, comme à l'ordinaire, dîner quelquefois chez elle et quelquefois chez Madame d'Orsin. Durant cet intervalle, Valville fut toujours aussi empressé, aussi tendre qu'il n'eût jamais été, mais sur la fin plus gai qu'il n'avait coutume de l'être. En un mot, il avait toujours autant d'amour, mais plus de patience sur les incidents qui reculaient la conclusion de son affaire. Et ce que je vous dis là, je ne me le rappelais que longtemps après, en repassant sur tout ce qui avait précédé le malheur qui m'arriva dans la suite. La dernière fois même que je dînais chez sa mère, il ne s'y trouva pas lorsque je vins et ne se rendit au logis qu'un instant avant que nous nous missions à table. Un importun l'avait retenu, nous dit-il, et je le crus d'autant plus qu'à cela près, je ne voyais rien de changé en lui. Et en effet, il était toujours le même, à l'exception qu'il était un peu plus dissipé qu'à l'ordinaire, à ce que m'avait dit Madame de Miran avant qu'il entrât, et c'est qu'il m'ennuie, avait-elle ajouté, de voir différer votre mariage. Enfin, la dernière fois qu'elle me ramenait à mon couvent, je vous prie, ma mère, que je sois de la partie, lui dit Valville, qui avait été charmant ce jour-là, qui à mon gré ne m'avait jamais tant aimé, qui ne me l'avait jamais dit avec tant de grâce, ni si galamment, ni si spirituellement. Et tant pis, tant de galanterie et tant d'esprit n'étaient pas bon signe. Il fallait apparemment que son amour ne fût plus ni si sérieux, ni si fort. Il me disait de si jolies choses qu'à cause qu'il commençait à n'en plus sentir de si tendre. Quoi qu'il en soit, il eut envie de nous suivre. Madame de Miran disputa d'abord, puis consentit. Le ciel en avait ainsi ordonné. « Je le veux bien, reprit-elle, mais à condition que vous resterez dans le carrosse et que vous ne paraîtrez point pendant que j'irai voir un instant l'abbesse. » Et c'est de cette complaisance qu'elle eut pour lui que vont venir les plus grands chagrins que j'ai eus de ma vie. Une dame de grande distinction était venue la veille à mon couvent avec sa fille, qu'elle voulait y mettre en pension jusqu'à son retour d'un voyage qu'elle allait faire en Angleterre pour y recueillir une succession qui lui laissait la mort de sa mère. Il y avait très peu de temps que le mari de cette femme était mort en France. C'était un seigneur anglais qu'à l'exemple de beaucoup d'autres, son zèle et sa fidélité pour son roi avaient obligé de sortir de son pays. Et sa veuve, dont le bien avait fait toute sa ressource, partait pour le vendre et pour recueillir cette succession dont elle voulait se défaire aussi dans le dessein de revenir en France où elle avait fixé son séjour. Elle était donc convenue la veille avec l'abbesse que sa fille entrerait le lendemain dans ce couvent et elle venait positivement de l'amener quand nous arrivâmes, de sorte que nous trouvâmes leur carrosse dans la cour. À peine sortions-nous d'une autre que nous vîmes ces deux dames descendre d'un parloir d'où elles venaient d'avoir un moment d'entretien avec l'abbesse. On ouvrait déjà la porte du couvent pour recevoir la fille, qui, jetant les yeux sur cette porte ouverte et sur quelques religieuses qui l'attendaient, regarda ensuite sa mère qui pleurait et tomba tout à coup évanouie entre ses bras. La mère, presque aussi faible que sa fille, allait à son tour se laisser tomber sur la dernière marche de l'escalier qu'elle venait de descendre, si un laquais qui était à elle ne s'était avancé pour les soutenir toutes les deux. Cet accident dont nous avions été témoins, Madame de Mirand et moi, nous fit faire un cri, et nous nous hâtâmes d'aller à elle pour les secourir et pour aider le laquais lui-même, qui avait bien de la peine à les empêcher de tomber toutes deux. « Et vite, mesdames, vite, je vous conjure !» criait la mère en pleurs, et du ton d'une personne qui n'en peut plus. « Je crois que ma fille se meurt !» Les religieuses, qui étaient à l'entrée du couvent, et bien effrayées, appelaient de leur côté une tourière, qui vint en courant ouvrir un petit réduit, une espèce de petite chambre où elle couchait, et qui par bonheur était à côté de l'escalier du parloir. Ce fut là où l'on tâcha de porter la demoiselle évanouie, et nous entrâmes avec la mère que Madame de Mirand soutenait, et à qui on craignait qu'il en arrivât autant qu'à sa fille. Valville, ému de ce spectacle qu'il avait vu aussi bien que nous du carrosse où il était resté, oubliant qu'il ne devait pas se montrer, en sortit sans aucune réflexion et vint dans cette petite chambre. On y avait mis la demoiselle sur le lit de la tourière, et nous la délassions, cette tourière et moi, pour lui faciliter la respiration. Sa tête penchait sur le chevet, un de ses bras pendait hors du lit, et l'autre était étendu sur elle, tous deux, oui, il faut que j'en convienne, tous deux d'une forme admirable. Figurez-vous les yeux qui avait une beauté particulière à être fermée. Oh, je n'ai rien vu de si touchant que ce visage-là, sur lequel cependant l'image de la mort était peinte. Mais c'en était une image qui attendrissait et qui n'effrayait pas. En voyant cette jeune personne, on eût plutôt dit « elle ne vit plus » qu'on eût dit « elle est morte ». Je ne puis vous représenter l'impression qu'elle faisait en vous priant de distinguer ces deux façons de parler, qui paraissent signifier la même chose et qui, dans le sentiment pourtant, en signifient de différentes. Cette expression « elle ne vit plus » ne lui ôtait que la vie et ne lui donnait pas les laideurs de la mort. Enfin, avec ce corps délacé, avec cette belle tête penchée, avec ces traits dont on regrettait les grâces, qui était encore, quoi qu'on s'imaginât à ne les y voir plus, avec ses beaux yeux fermés, je ne sache point d'objet plus intéressant qu'elle l'était, ni de situation plus propre à remuer le cœur que celle où elle se trouvait alors. Valville était derrière nous, qui avait la vue fixée sur elle. Je le regardais plusieurs fois, il ne s'en aperçut point. J'en fus un peu étonné, mais je n'en allais pas plus loin et je n'en inférais rien. Madame de Mirand cherchait dans sa poche un flacon plein d'une eau souveraine en pareil accident et elle l'avait oublié chez elle. Valville, qui en avait un pareil au sien, s'approcha tout d'un coup avec vivacité, nous écarta tous, pour ainsi dire, et se mettant à genoux devant elle, tâcha de lui faire respirer de cette liqueur qui était dans le flacon et lui en versa dans la bouche. Ce qui, joint au mouvement que nous lui donnions, fit qu'elle entr'ouvrit les yeux et les promena languissamment sur Valville, qui lui dit avec je ne sais quel ton tendre ou affectueux que je trouvais singulier, « Allons, mademoiselle, prenez-en, respirez-en encore !» Et lui-même par un geste sans doute involontaire, lui prit une de ses mains qu'il pressait dans les siennes. Je la lui ôtai sur le champ, sans savoir pourquoi. « Doucement, monsieur, lui dis-je, il ne faut pas l'agiter tant. » Eh bien, il ne m'écouta pas. Mais tout cela ne paraissait de part et d'autre que l'effet d'un empressement secourable pour la demoiselle. Et il se disposait encore à lui faire respirer de cet élixir, quand la jeune personne, en soupirant, ouvrit tout à fait les yeux, souleva sa main que je tenais et la laissa retomber sur le bras de Valville, qui la prit et qui était toujours à genoux devant elle. « Ah, mon Dieu, dit-elle, où suis-je ? » Valville gardait cette main, la serrait, ce me semble, et ne se relevait pas. La demoiselle, achevant enfin de reprendre ses esprits, l'envisagea plus fixement aussi, lui retira tout doucement sa main sans cesser d'avoir les yeux fixés sur lui, et comme elle devina bien au flacon qu'il avait, qui s'était empressé pour la secourir, « Je vous suis obligée, monsieur, lui dit-elle. Où est ma mère? Est-elle encore ici ?» Cette dame était au chevet du lit, assise sur une chaise où on l'avait placée, et où elle n'avait eu, jusque-là, que la force de soupirer et de pleurer. « Mais voilà, ma chère fille, répondit-elle avec un accent un peu étranger. « Ah, Seigneur, que vous m'avez effrayée, ma chère Varton. Voici des dames à qui vous avez bien obligation, aussi bien qu'à monsieur. » Et observez que ce monsieur demeurait toujours dans la même posture, je le répète, à cause qu'il m'ennuyait de l'y voir. La demoiselle, bien revenue à elle, jeta d'abord ses regards sur nous, ensuite les arrêta sur lui, et puis, s'apercevant du petit désordre où elle était, ce qui venait de ce qu'on l'avait délassé, elle en parut un peu confuse et porta sa main sur son sein. « Levez-vous donc, monsieur, » dis-je à Valville. « Voilà qui est fini. Mademoiselle n'a plus besoin de secours. »« Cela est vrai, » me répondit-il, comme avec distraction et sans ôter les yeux de dessus d'elle. « Je voudrais bien relever, » dit alors la demoiselle en s'appuyant sur sa mère, qui l'aida du mieux qu'elle put. J'allais m'en mêler et prêter mon bras, quand Valville me prévint et avança précipitamment le sien pour la soulever. Tant d'empressement de sa part n'était pas de mon goût, mais de dire pourquoi je le désapprouvais, c'est ce que je n'aurais pu faire. Je ne serais pas même convenu qu'il me déplaisait. Je pense que ce petit dépit que j'en avais me faisait agir sans que je le connusse. Comment aurais-je connu les motifs ? Et, suivant toute apparence, Valville y entendait aussi peu de finesse que moi. Il fallut bien, cependant, qu'il se passât quelque chose d'extraordinaire en lui, car vous avez vu la brusquerie avec laquelle je lui avais parlé deux ou trois fois, et il ne l'avait pas remarqué. Il n'en fut point surpris, comme il n'aurait pas manqué de l'être dans un autre temps. Ou bien il la souffrit en homme qui la méritait, qui se rendait justice à son insu, et qui était coupable dans le fond de son cœur, aussi l'était-il, mais il l'ignorait. Poursuivons. Les religieuses attendaient toujours que la demoiselle entrât. Elle nous remercia, Madame de Miron et moi, de fort bonne grâce, mais d'un air modeste du service que nous venions de lui rendre. Je m'imaginais la voir un peu plus embarrassée dans le compliment qu'elle fit à Valville, et elle baissa les yeux en lui parlant. « Allô, ma mère, » ajouta-t-elle ensuite, « c'est demain le jour de votre départ. Vous n'avez pas le temps à perdre, il est temps que j'entre. » Là-dessus, elles s'embrassèrent, non sans verser encore beaucoup de pleurs. J'ai supprimé toutes les politesses que Madame de Miron et la dame étrangère s'étaient faites. Cette dernière lui avait même conté un peu de mots les raisons qui l'obligeaient à laisser la jeune personne dans le couvent. Ma fille, me dit ma mère en les voyant s'embrasser pour la dernière fois, puisque vous allez avoir l'honneur d'être la compagne de mademoiselle, tâchez de gagner son amitié et n'oubliez rien de ce qui pourra contribuer à la consoler. Voilà bien de la bonté, madame, repartit aussitôt la dame étrangère. Je prendrai donc à mon tour la liberté de vous la recommander à vous-même. À quoi madame de Mirand répondit qu'elle demandait aussi la permission de la faire venir chez elle quand elle m'enverrait chercher, ce qui fut reçu de part et d'autre avec tous les témoignages possibles de reconnaissance. Ces deux dames se connaissaient de nom et par là savaient les égards qu'elles se devaient l'une à l'autre. À tout cela, Valville ne disait mot et regardait seulement la demoiselle, sur qui, contre son ordinaire, je lui trouvais les yeux plus souvent que sur moi, ce que j'attribuais sans en être contente à un pur mouvement de curiosité. Le moyen de le soupçonner d'autre chose, lui qui m'aimait tant, qui venait dans la même journée de m'en donner de si grandes preuves, lui que j'aimais tant moi-même, à qui je l'avais tant dit et qui était si charmé d'en être sûr. Hélas, sûr! Peut-être ne l'était-il que trop. On ne le croirait pas, mais les âmes tendres et délicates ont volontiers le défaut de se relâcher dans leur tendresse quand elles ont obtenu toute la vôtre. L'envie de vous plaire leur fournit des grâces infinies, leur fait faire des efforts qui sont délicieux pour elles, mais dès qu'elles ont plu, les voilà désœuvrées. Quoi qu'il en soit, la jeune demoiselle, en reconnaissance de l'attachement que madame de Mirand m'ordonnait d'avoir pour elle, vint galamment se jeter à mon cou et me demander mon amitié. Cette action, à laquelle elle se livra de la manière du monde la plus aimable et la plus naïve, m'attendrit. Je n'en aurais peut-être pas fait autant qu'elle. Non qu'elle n'eût pas paru digne d'être aimée, mais mon cœur ne me disait rien pour elle, ou plutôt, je me sentais un fond de froideur que j'aurais eu de la peine à vaincre et qui ne tint point contre ses caresses. Je les lui rendis avec toute la sensibilité dont j'étais capable et m'intéressai véritablement à elle, qui, s'arrachant encore d'entre les bras de sa mère, se retira enfin dans le couvent d'où je lui criai que j'allais la suivre dès que nous aurions vu la messe avec qui madame de Mirand voulait avoir un instant d'entretien. La mère remonta dans son équipage, baignée de ses larmes, et le lendemain partit en effet pour l'Angleterre. Madame de Mirand alla un instant parler à l'abbesse, me vit entrer dans le couvent, et alla rejoindre Valville, qui s'était remis dans le carrosse où il l'attendait. Il nous avait quittés à l'instant où nous avions été au parloir de l'abbesse. Je ne l'avais pas vu moins tendre qu'il avait coutume de l'être. Il n'eut qu'une chose à laquelle il manqua, c'est qu'il oublia de parler à madame de Mirand du jour où nous nous reverrions. Et je me rappelais cet oubli un quart d'heure après que je fus rentré. Mais nous avions été dérangés. L'accident de la demoiselle avait distrait nos idées, avait fixé notre attention. Et puis ma mère n'avait-elle pas dit au logis que je reviendrai le lendemain ou le jour d'après. Cela ne suffisait-il pas? Je l'excusais donc et je traitais de chicane la remarque que j'avais d'abord faite sur son oubli. Je reçus de l'abbesse et des religieuses et des pensionnaires que je connaissais l'accueil le plus obligeant. Je vous ai déjà dit qu'on m'aimait et cela était vrai, et surtout de la part de cette religieuse dont j'ai déjà fait mention, et qui m'avait si bien vengé de la hauteur et des railleries de la jeune et jolie pensionnaire dont je vous ai parlé aussi. Dès que j'eus remercié tout le monde de la joie qu'on avait témoignée pour mon retour, je courus chez ma nouvelle compagne, dont on avait la veille apporté tous les hardes, qu'une sœur converse arrangeait alors, pendant qu'elle rêvait tristement à côté d'une table sur laquelle elle était appuyée. Elle se leva du plus loin qu'elle m'aperçut, vint m'embrasser et marqua un extrême plaisir à me voir. Il aurait été difficile de ne pas l'aimer. Elle avait les manières simples, ingénues, caressantes, et pour tout dire enfin, le cœur comme les manières. C'est un éloge que je ne puis lui refuser, malgré tous les chagrins qu'elle m'a causés. Je m'épris pour elle de l'inclination la plus tendre. La sienne, pour moi, disait-elle, avait commencé dès qu'elle m'avait vue. Elle n'avait senti de consolation qu'en apprenant que je demeurais avec elle. « Promettez-moi que vous m'aimerez, que nous serons inséparables, » ajouta-t-elle avec des tons, des serrements de main, avec des regards dont la douceur pénétrait l'âme et entraînait la persuasion, de sorte que nous nous liâmes du commerce de cœur le plus étroit. Elle était pour ainsi dire étrangère, quoiqu'elle fût née en France. Son père était mort, sa mère partait pour l'Angleterre, elle y pouvait mourir. Peut-être cette mère venait-elle de lui dire un éternel adieu. Peut-être au premier jour annoncerait-on à sa fille qu'elle était orpheline. Et moi, j'en étais une. Mes infortunes allaient bien au-delà de celles qu'elle avait à appréhender, mais je la voyais en danger d'éprouver une partie des miennes. Je songeais donc que son sort pourrait avoir bientôt quelque ressemblance avec le mien, et cette réflexion m'attachait encore plus à elle. Il me semblait voir en elle une personne qui était plus réellement ma compagne qu'une autre. Elle me confiait son affliction, et dans l'attendrissement où nous étions toutes deux, dans cette effusion de sentiments tendres et généreux à laquelle nos cœurs s'abandonnaient, comme elle m'entretenait des malheurs de sa famille, je lui racontais aussi les miens, et le lui racontais à mon avantage, non par aucune vanité, prenez garde, mais ainsi que je l'ai déjà dit, par un pur effet de la disposition d'esprit où je me trouvais. Mon récit devint intéressant. Je le fis de la meilleure foi du monde, dans un goût aussi noble que tragique. Je parlais en déplorant victime du sort, en héroïne de roman, qui ne disait pourtant rien que de vrai, mais qui ornait la vérité de tout ce qui pouvait la rendre touchante et me rendre moi-même une infortunée respectable. En un mot, je ne mentis en rien, j'en étais pas capable, mais je peignis dans le grand, mon sentiment me menait ainsi sans que j'y pensasse. Ainsi la belle Varton m'écoutait-elle en me plaignant, en soupirant avec moi, en mêlant ses larmes avec les miennes. Quand nous en répandions toutes deux, elle pleurait sur moi, je pleurais sur elle. Je lui fis l'histoire de mon arrivée à Paris avec la sœur du curé qui était morte. Je traitais le caractère de cette sœur aussi dignement que je traitais mes aventures. C'était, disais-je, une personne qui avait eu tant de dignité dans ses sentiments, dont la vertu avait été si aimable, qui m'avait élevé avec des égards si tendres, et qui était si fort au-dessus de l'état où le curé, son frère et elle vivaient à la campagne, et cela était encore vrai. Ensuite, je rapportais la situation où j'étais resté après sa mort, et ce que je dis là-dessus fendait le cœur. Le père Saint-Vincent, monsieur de Climal, que je ne nommais point. Mon respect et ma tendresse pour sa mémoire m'en auraient empêché quand j'en aurais eu envie. L'injure qu'il m'avait faite, son repentir, sa réparation, la du tour même chez qui il m'avait mise si peu convenablement pour une fille comme moi, tout vint à sa place, aussi bien que madame de Miran, à qui, dans cet endroit de mon récit, je ne songeais point non plus à donner d'autre nom que celui d'une dame que j'avais rencontrée, sauf à la nommer après quand je serais hors de ce ton romanesque que j'avais pris. Je n'avais omis ni ma chute au sortir de l'église, ni le jeune homme aimable et distingué par sa naissance chez lequel on m'avait porté. Et peut-être, dans le reste de mon histoire, lui aurais-je appris que ce jeune homme était celui qui l'avait secouru, que la dame qu'elle venait de voir était sa mère, et que je devais bientôt épouser son fils, si une converse qui entra ne nous eût pas averti qu'il était temps d'aller souper, ce qui m'empêcha de continuer et de mettre au fait Mademoiselle Varton, qui n'y était pas encore, puisque j'en restais à l'endroit où Madame de Mirand m'avait trouvé. Ainsi, cette demoiselle ne pouvait appliquer rien de ce que je lui avais dit aux personnes qu'elle avait vues avec moi. Nous allâmes donc souper. Mademoiselle Varton, pendant le repas, se plaignit d'un grand mal de tête qui augmenta et qui l'obligea, au sortir de table, de retourner dans sa chambre où je la suivis. Mais comme elle avait besoin de repos, je la quittai après l'avoir embrassée, et rien de ce qui s'était passé pendant son évanouissement ne me revint dans l'esprit.